Vous écoutez RTL.
Et c'est donc l'heure de la revue de presse avec Sophie Orange. Bonjour.
Bonjour. Se fait-on la bise ou pas sur la
fin? Si vous voulez.
On se serre la main ou alors juste un signe de tête? Le débat très sérieux est lancé dans Le Parisien par une élue de Morette en Isère, Aude Picard-Wolf, en a marre de faire la bise à ses collègues. La maire de ce petit village a fait les comptes. 73 personnes à embrasser, rien que pour une réunion de la communauté de communes. Elle préfère donc arriver en retard ou prétexter un gros rhume pour ne pas faire la bise à tout le monde. Si vous ajoutez à cela commémoration, réunion, cérémonie, conseil d'administration, trop c'est trop. Vous allez me dire, elle n'est pas très sympa, la maire de Morette. Rien à voir, elle assume. Ce rituel me pèse et me gêne. La bise, c'est pour mes amis et ma famille. Ce geste systématique ne veut plus rien dire. En plus, la bise augmente les risques de contagion en période de grippe, de gastro ou de rhume. Ne pas s'embrasser évite aussi de sentir de trop près des odeurs pas toujours très agréables, l'haleine ou le parfum un peu fort de son voisin. Elle est réaliste, Aude Picard-Wolf. Dossier très sérieux qui nous apprend que dans les trois quarts de la France, on tend d'abord la joue droite pour se faire la bise. Dans le sud-est, le sud-ouest et l'est, on tend plutôt la joue gauche.
Oui, c'est pour ça, donc.
Et on fait quatre bises dans l'Aube et la Haute-Marne, une seule en général dans les Deux-Sèvres et le Finistère. S'embrasser pour se dire bonjour est un rituel récent. Savez-vous que jusque dans les années 70, il était très mal vu de se faire la bise en public. Et vous, comment accueillez-vous vos collègues le matin? Moi, j'ai choisi mon camp.
Ben en tout cas, j'ai compris enfin pourquoi, de temps en temps, quand on rencontrait quelqu'un qui n'est pas de sa région, on risque de s'embrasser sur la bouche. Alors voilà un sujet qui suscite plus de débats que de chaudes embrassades, la bioéthique.
Les états généraux vont être lancés officiellement le 18 janvier prochain, avant un projet de loi de révision des lois sur la bioéthique à l'automne. La Croix publie un sondage ce matin qui montre comment les Français ont changé d'avis en très peu de temps sur ces sujets si polémiques, notamment la GPA, gestation pour autrui, quand une femme porte l'enfant d'une autre femme. 64% des personnes interrogées y sont favorables. Évolution aussi sur la PMA. 60% pensent que la procréation médicale assistée doit être élargie aux couples de femmes, contre 24% il y a 30 ans. 89% sont également favorables à une évolution de la loi sur la fin de vie. Les Français sont devenus libéraux sur ces sujets de société, analyse Jérôme Fourquet, le directeur du département opinion de l'IFOP. Preuve également que la déchristianisation de la société française est en route. C'est même une vague de fond, puisqu'il n'y a pas de clivage majeur entre les générations et les préférences politiques. Sur ce sujet, l'Église devra éviter deux écueils, prévient Monseigneur Jean-Luc Brugnon dans La Croix, évêque du Havre, la croisade et le défaitisme. Religion, GPA, PMA, voilà des sujets qui inspirent en général Charlie Hebdo, mais cette semaine, l'hebdomadaire parle de lui en une.
Un numéro de Charlie Hebdo, 3 ans après l'attentat du 7 janvier et la mort de 11 figures du journal.
Et le dessin de ce numéro 13028 est signé RIS. On y voit la porte d'un bunker et cette inscription Charlie Hebdo, 3 ans dans une boîte de conserve. Un petit fenestron s'ouvre et un personnage lance le calendrier de Daesh déjà donné. Le journal satirique explique que depuis 3 ans, le traumatisme est toujours là et que la liberté d'expression a un coût. 1 million, 1,5 million d'euros par an pour sa propre protection, soit l'équivalent de 800 000 exemplaires de Charlie vendus. Est-il normal pour un journal d'un pays démocratique que plus d'un exemplaire sur deux vendu en kiosque finance la sécurité des locaux et des journalistes qui y travaillent, s'interroge le journal. Charlie Hebdo qui fait toujours l'objet de menaces, mais aussi de polémiques.
Une autre question, quel est le point commun entre Mike Tyson et Floyd Landis, le sport, j'imagine?
Oui, mais pas seulement. Il y a aussi le cannabis. Floyd Landis, vainqueur du Tour de France, déchu pour dopage, a créé une société qui vend des produits à base de cannabis, la drogue après la dope, dit-il dans un sourire. Et Mike Tyson, donc, ancienne star de la boxe, qui lui vient d'investir dans un terrain où pousse du cannabis, 16 hectares plantés en Californie, nous apprend Libération. Cet État américain autorise depuis lundi l'usage récréatif de la marijuana. On peut y fumer un joint sans être inquiété. Si la France légalisait le cannabis, et en imaginant que l'État contrôle la filière. Cela rapporterait 1,3 milliard d'euros de recettes fiscales à comparer aux 500 millions d'euros que coûte la lutte contre la marijuana.
Alors j'imagine que vous vous êtes fait la bise pour vous souhaiter la bonne année. Là, oui. Mais alors quelle musique avons-nous écouté à minuit pour le passage en 2018?
La plateforme Deezer publie le top 10 des chansons les plus écoutées entre, attention c'est précis, 23h55 et minuit 5. C'est vraiment au moment du passage en 2018 et c'est le parisien.fr qui relaie l'info. Résultat, je m'attendais à ce que ce soit le tube de l'année d'Espacito qui a fait danser les foules. Eh ben non, pas du tout. Voilà le numéro 1.
3, 2, 1,
le compte à rebours signé
c'est tout bête.
La bande à Michel. C'est tout bête, c'est pas vraiment de la musique. Et le numéro 2, C'est celui-là. Moi, j'aurais mis Claude François. Ça met tout le monde sur la piste.
Ouais, ça reste un peu disco, tout ça. Hein.
Bruno Mars.
Mars, c'est plus récent. 24K, c'est, voilà, c'est plus récent. Allez, je vous dis au revoir. Avec ou sans bise?
Bon, on se fait la bise.
Oh, on se fait la bise.
Allez, voilà. Merci, Sophie Orange.